Bonjour à vous. Aujourd'hui, en studio, nous accueillons Alexandre Côté. Bonjour, Alexandre.
Bonjour, Jean-François.
Alexandre était en classe, ici, j'ai noté, l'automne 2016, si je me souviens bien. Il faisait son bac en sciences géomatiques. Donc, si pour vous, là, vous êtes en sciences géomatiques, que vous vous dirigez vers la profession d'arpenteur géomètre, pour vous, là, c'est votre épisode aujourd'hui. Je me rappelle Alexandre en classe. Alex, il était là. Totalement là. Il était en avant. Il faisait un retour aux études, me semble-t-il, à l'époque. Ouais. Il était là, en avant, il posait des questions, il faisait des commentaires. Vous savez, il y a un étudiant là, que tout le monde dit, il est motivé, pourquoi qu'il pose encore une question? C'était ça, là, Alexandre, il était là, il ne laissait rien passer. Je me rappelle de parler, peu importe le sujet abordé, il y avait une question très pertinente à poser. Il y avait même une certaine expérience du monde, du travail. Donc, c'était intéressant d'avoir des discussions avec lui. Mais voilà, c'était son... Ça ressemblait à ça, Alexandre? Tu ressemblais à ça?
Oui. Je pense que oui, mais c'est... Oui, je me vois comme ça, là. Tu me reprojettes une image. Je suis capable de me voir dans la classe.
De t'assumer comme ça?
Oui, oui.
Donc, tu faisais ton bac en sciences géomatiques. Comment ça a été ta formation ici à l'université? Est-ce que ça te manque?
Oui,
ça te manque?
Ah, je m'ennuie de ça, là.
C'est
vrai? Ah, j'adorais ça, apprendre. Comme tu dis, moi, j'ai travaillé avant. Donc, c'est sûr que quand on a fait le domaine du travail, puis on revient, on boit pas tout. On boit les enseignements différemment.
C'est vrai.
Pour moi, chaque cours de 3 heures, je me disais, il aurait pu en parler 45 heures peut-être de ça, en fait. Donc là, on comprend la pertinence des choses parce qu'on... On fait des rattachements avec du vécu, puis ça, c'est fort, ça.
Ah oui,
c'est sûr que le regard
d'un étudiant qui a déjà travaillé, c'est vrai que c'est différent. Il arrive avec des besoins. C'est pas seulement le prof là, qui enseigne, là. C'est l'étudiant qui est là pour « Vas-y, réponds à mes questions, j'en ai, puis si tu y réponds pas, je vais te les poser, mes questions. » Puis le bac, en général, comment t'as trouvé ça? Les profs, les cours, ça répondait à tes besoins, justement, ou pas?
Oui, mais en fait, j'ai adoré mon bac. Je suis quelqu'un qui est très curieux, qui aime... J'aime connaître des choses pour connaître des choses. Donc, même si certains pouvaient dire qu'il y avait des cours qui n'étaient pas à propos, je
leur fais confiance. Je me promenais
là-dedans comme un poisson dans l'eau. Là, j'adorais ça, c'est sûr. Je recevrais... Je pourrais recevoir des rushs pour dire ça, mais des fois, je me disais, on aurait pu rajouter 2 ans.
Parce que, beaucoup
de mes collègues me disaient, on pourrait couper d'un an, puis commencer à pointer des cours. Puis je faisais, non, en fait, il en manque.
C'est sûr, je pense que les étudiants, c'est normal, là, ils ont hâte d'explorer le monde du travail, mais en même temps, ça manque un peu à votre parcours là, de profiter de ce moment-là. Je sais que des fois, c'est un peu trop théorique, mais en même temps, c'est peut-être la seule fois que vous allez faire autant de théorie toute votre vie. T'sais, pourquoi pas... Vous aimez ça, le terrain? Très bien, vous allez en faire 40 ans de terrain. Pourquoi pas prendre 3 ans, 4 ans de votre vie pour justement explorer, avoir des contenus peut-être un peu plus théoriques? L'important, c'est que ça soit intéressant, je dirais, intellectuellement. Là.
Ouais.
Donc, les profs soient bons, que le contenu soit intéressant, mais le fait que ce soit un peu trop théorique, pourquoi pas, là, 3-4 ans. C'est une belle période aussi, l'université. Là.
Oui. Mais tu sais, il y a trop théorique, mais il y aurait peut-être aussi de prendre plus le temps de mieux expliquer pourquoi. Tu sais, des fois, on passe rapidement.
Ah oui.
On parle de la réglementation, on se fait envoyer ça.
Voici sans règle. Puis
lisez-moi cette loi-là. Mais tu sais, de pouvoir avoir le temps d'arriver avec des cas concrets, tu sais, des exemples plus concrets à chaque fois. On n'est pas des techniciens en soi, mais ça reste qu'on va en gérer, puis d'être capable de visualiser la chose, puis faire « OK, ce truc-là, là, c'était vraiment
ça
important qu'on comprenne les nuances de cette notion-là, parce que, elle peut avoir... »
Parce qu'éventuellement, elle aura vraiment un impact sur l'exercice de votre profession.
Ouais.
Puis parlant d'exercice de la profession, ben rapidement, j'imagine que tu t'es trouvé des stages pendant ton...
Oui.
Comment ça s'est passé, les stages?
Ça s'est bien passé, surtout les stages au niveau de l'université.
As-tu des surprises entre la façon que tu t'étais conçu, la profession, puis une fois que tu es sur le terrain, tu fais des stages?
Ben oui, c'est sûr. Je veux dire, on comprend qu'on passe d'un niveau de pureté intellectuelle absolue à, ben aujourd'hui, il faut qu'on fasse nos trois mandats.
OK, là, c'est les réalités pratiques.
Ouais, la notion d'arrondissement, on pourrait amener ça comme ça. Là, ça l'arrondit beaucoup. Il y a des choses qu'on fait. OK, parce que moi, j'ai appris dans mon cours qu'il fallait faire ça comme ça, mais...
Mais sur le terrain...
On fait ça de même, c'est beau. Regarde.
C'est plus souple ou c'est carrément... ça manque...
Non, ben en fait, OK...
Est-ce qu'il y avait des manques que tu constatais sur le terrain?
Ou... Il peut y avoir des manques, oui. Puis aussi, en fait, c'est quelque chose de très... en fait, c'est quelque chose que toi, tu as dit dans un... Tu m'as dit ou tu as dit dans un cours. Et honnêtement, je vais te le dire, tu m'as fait digérer mon bac d'un coup sec.
Comment ça?
J'ai compris tout.
Je veux le redire.
En fait, tu parlais beaucoup au niveau de l'ingénierie. Tu sais, ouais. T'avais dit, tu disais que les ingénieurs, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient une solution complexe,
ouais.
Puis qu'ils cherchaient une théorie plus générale à laquelle la solution complexe pouvait correspondre.
Ouais.
Et là, on appliquait la théorie.
Ouais.
Ben, c'est bête, hein, mais... C'est vrai. Puis là, j'ai fait « OK, ouais. » Moi, j'ai appris bien des choses, là, mais en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne la solution complexe, j'y trouve le truc qui
ben, c'est ça,
le plus l'idée, proche. Puis là, à partir de ce moment-là, on arrête de chercher. Là, on fait des calculs, puis on fait « ça marche pas à temps, puis là, je stresse. » Non. On cherche pas à aller...
Tu ne cherches pas à résoudre la complexité. Ben, c'est ça.
D'aller ultimement résoudre.
C'est la force de ces techniques-là, de ces professions-là avec une dimension scientifique, c'est que tu prends un enjeu très complexe. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que tu n'en feras jamais le tour. Puis tu essaies d'identifier des pistes de solutions plus simples que tu pourrais appliquer à cette complexité-là.
Exactement. Donc,
c'est une grande beauté, une grande efficacité. Ouais. C'est-à-dire que oui, tu as des solutions toutes prêtes, puis c'est juste de trouver laquelle à appliquer avec cette complexité-là.
Encore là, ça vient simple quand tu raisonnes comme ça, parce que tu dis, est-ce que l'écart entre la solution complexe que je constate et ma généralité, est-ce qu'elle est plus grande ou plus petite que mon besoin de précision?
Ah, c'est intéressant.
Puis si tu dis, ben, moi j'ai toujours vu ça comme la capacité de percevoir.
Okay.
Si tu es capable de percevoir une différence dans quelque chose,
ouais.
C'est significatif. Si tu ne peux pas le voir, ça ne l'est pas.
OK, mais c'est toute la notion de jugement, c'est-à-dire ouais. Qu'être capable de trier entre une information qui, elle, est pertinente, puis d'autres là, qu'on peut se permettre de tasser ou de ne pas tenir compte. Tantôt, dans la pré-entrevue, tu me disais... justement, là, on parlait des stages, des chocs du travail. Tu arrives sur... justement, là, on parle de... Peut-être tu parles ici d'une façon de traiter des données, d'en écarter certaines que tu trouves importantes, puis d'autres que tu trouves qu'on écarte peut-être trop facilement. Tu m'avais parlé que des fois, tu avais constaté, peut-être pendant ton stage, peut-être un peu plus tard, mais l'idée qu'on puisse jouer un peu avec... certaines données, falsifier des données, parce que mes étudiants m'en parlent souvent, la falsification de données, voit ça quelque chose comme très gros, là, je prends une donnée X, puis je dis Y avec un gros mensonge, mais t'étais beaucoup plus subtil, là, à quoi ça ressemble, concrètement, à quoi ça ressemble une falsification de données sur le terrain, entre autres en géomatique comme toi?
Oui. C'est des choses que j'ai vues de mes yeux vus.
OK.
Mais en gros, les étudiants vont vite comprendre parce qu'ils étudient dans le domaine, mais on va aller relever des positions avec un GNSS, donc un communément appelé GPS. Et ben, il va y avoir une position X, Y, Z, il va y avoir un niveau de précision, donc des ellipses d'erreur, des plus ou moins 30 cm. Et après, il y a des paramètres de qualité par rapport au positionnement des satellites pour dire, ben ça, dans cette situation-là, j'ai beau te donner ce niveau de précision-là.
Donc, tu as des mesures. Et dans ton appareil te donne non seulement certaines mesures, mais il te donne aussi une marge d'erreur. Puis il te donne aussi des données de fiabilité de tes résultats, c'est ça?
C'est toutes les DOP, les GDOP, les PDOP, les HDOP.
OK, les PDOP. Ça, c'est des acronymes qu'on ne rentrera peut-être pas là-dedans, mais disons mais que c'est des données importantes pour l'arpenteur qui dit. Comme information pertinente.
Ouais.
Ça, c'est fiable. Ça, c'est plus ou moins fiable.
C'est ça, exactement.
Pour une échelle de grandeur, ça ressemble à quoi?
Bon, ben de 0 jusqu'à 2 dans les...
De 0 à 2 sur bon, ton... Comment ben, tu l'appelais? Ça,
des GDOB.
GDOB.
Bon, ça, il n'y a pas de problème.
0 à 2, c'est fiable?
Oui, oui. 0 à 2, l'arpenteur ne se pose pas de questions.
Tes satellites sont bien alignés, ça devrait être fiable.
Puis la position, là, on va la prendre comme telle. Puis bon, jusqu'à 5, là, ben là, on peut commencer à être plus, disons... Pas suspicieux, mais...
OK, tu as un doute raisonnable, là,
dire,
puis tu
ben,
dis,
qu'est-ce que je fais avec ça, puis...
C'est fiable, mais en même temps...
Je vais juste prendre le temps de m'assurer que mon système est bien, puis que tout est correct. Puis en haut de 5, ben ça dit pas de le jeter à la poubelle. Ça dit juste, si tu veux de quoi de très précis, là, tu veux aller prendre une position millimétrique au sol, là, ben
oublie ça.
On dit centimétrique déjà, subcentimétrique ou... c'est mieux d'éviter ça.
Donc, de 5 à plus haut de 5, tu dis...
Ça monte à...
Peu importe ce que ton appareil
12,
te donne.
Je pense que j'ai du 20, tu sais. Okay. Mais si tu me disais qu'on est perdu dans le bois, puis je te donne un alignement avec un GDOB de 20, je te dis qu'on va arriver à la bonne place.
Vas-y, t'es sur la bonne ligne.
Écoute,
si tu veux mettre une ligne précise au centimètre près...
Un exemple, c'est souvent les headsets, là. C'est le nerf de la guerre en arpentage. Les haies se retrouvent toujours sur les limites des terrains, dans lesquels sont incrustés des clôtures, des repères, des toutes sortes de trucs. Nous, on va aller mesurer ça.
Précisément.
Puis là, on se bat pour rentrer dans la haie, mettre les appareils droits. C'est l'enfer. la haie, c'est quelque chose qui est vivant, qui va pousser, qui va peut-être... pas nécessairement avoir été planté droit parce que de toute façon,
Droit.
Non, puis en partant, le CED n'est jamais droit. Ils sont peut-être pas tous alignés. Puis là, on va aller mesurer ça le centre. Puis là, ben.
Mais vous autres, vous voulez prendre une mesure exacte. Là.
Et on veut prendre idéalement le centre de la haie, disons.
OK.
Puis bon, selon les firmes, on peut même mesurer la largeur. C'est une bonne chose. Ils ne font pas tous, mais bon, déjà au moins le centre, c'est quelque chose. Les techniciens, ça, des fois, ils se battent, là, tu sais, ils essaient d'aller chercher là, une position super précise, ils attendent que le satellite soit à un centimètre là, ou deux, là, puis là, de précision. Puis là, moi, je les regarde, puis je leur dis, s'il y a quelqu'un d'autre qui venait prendre la mesure ici, là, ça se pourrait-tu qu'ils mettent sa pointe 10 cm à côté de la tienne, quelque part ici? Parce que là, ils sont à un 10 cm de précision, là, puis ils attendent, là, puis ils tiennent le GPS à bout de bras, puis c'est l'enfer. Puis là, ils me disent, ben oui. Bon. J'ai dit, qu'est-ce que t'attends pour faire, Rick?
Pour prendre ta mesure.
Parce qu'en fait, quelqu'un d'autre pourrait me le donner à côté. J'ai dit, c'est un clou pour... J'ai dit, je veux un bon GDOP.
Mais donc, t'as une petite marge de manœuvre.
T'as une marge de manœuvre.
Mais tantôt, tu me parlais de falsification.
Tu vas avoir
une donnée quand même précise. Là. Tu peux pas te contenter de...
Non, ben ça dépend. Si c'est un ETSED, je veux l'apprendre, le GDOP 10.
Ah, OK, une ETSED.
OK, ben oui, parce qu'il va peut-être me donner, tu sais, quand même que ça bougerait de 10-15 cm ou que, tu sais, c'est... Puis, tu sais, je vais dire...
Parce que la ETSED, déjà, est floue, là.
Ben, je veux dire, à Étienne, on peut amener autant de personnes qu'on veut, leur dire, mets-moi le doigt au milieu de la Étienne, puis il n'y en a pas un qui va mettre le doigt à la même place.
Oui, c'est ça.
OK, mais si.
Mais il y a d'autres contextes, il faut que ça soit plus précis.
Oui, si je prends un clou, on installe des clous, bon, mettons, on va dire un point géo pour toi, là. Un point géo, tu ne sais pas c'est quoi, toi.
Un point géo?
Bon, mais c'est. Dans le
OK, fond, oui, une espèce de pieu là, que tu mets dans le sol. Oui,
puis on a une coordonnée très précise qui est calculée par le gouvernement. Ça,
OK. Mais
ça, le centre de ça, là, tu sais, la coordonnée, tu vois, il y a une fiche, là, ça descend au millimètre, là, tu sais.
OK.
Fait que là, ben, tu sais, ça,
mais
là...
quand t'en vois une, celle-là est précise, là.
Ben, arrive-moi pas avec un GDOB de 12 sur un point géo.
Là, bon, voilà, faire, c'est là que ces mesures-là, tantôt, tu disais 5 et plus, quand t'arrives pour poser ce genre de socle-là...
Ben, en fait, il y a le poser, ça poser, c'est fait... quand ils le posent, ils vont avoir... ils l'installent flambant neuf, là. Ils vont avoir regardé c'est quoi les dégagements au pourtour pour justement s'assurer que ça n'arrive pas.
Okay.
Bon, puis avec le temps, les arbres vont pousser, la végétation, puis plein de choses, les bâtisses. Puis à un moment donné, ben, les conditions d'observation d'origine ne sont plus celles
ben oui, peuvent
actuelles.
Varier.
Puis ben, c'est là que si tu m'arrives avec un GDOB de 12 sur un point géo... Puis là, moi, il faut que je fasse une analyse avec un de ces points-là, entre autres. Là, je vais faire un. C'est parce que là, ça peut faire tout distorsionner mon système. Là.
Puis comment on peut falsifier ces données-là?
Ah, ben. C'est...
Donc, tu arrives, tu as des techniciens, ils vont te chercher une mesure.
Ouais, course à falsification. Ouais,
falsification?
Ouais, 101, je m'excuse.
Il est tôt le matin, là.
Ben, je le fais pas assez, il faudrait que je falsifie plus.
Ouais, c'est ça. Falsification. Donc, comment falsification. On peut falsifier ben, légèrement gros, ces
ben,
données?
C'est pas
c'est-à-dire qu'en étant tolérant sur le taux de comment tu appelles, le GDOB que
ouais,
tu appelles?
Oui, GDOB, on peut. Ben, en fait, c'est que, grosso modo, les appareils vont exporter les fichiers du lever qui a été fait. Et 99% des arpenteurs choisissent un format ASCII, qui est un fichier qui s'ouvre avec n'importe quoi. C'est un fichier texte, là, bloc-notes, tout le kit. Puis après ça, ben laissez-vous aller.
Puis pourquoi qu'on se laisserait aller? C'est-à-dire que tu prends des données, puis là, tu as un fichier qui est exporté, puis le fichier il est modifiable.
Ça
permet à n'importe qui de le modifier.
Ouais. Bon, partons d'en haut. Si l'arpentage géomètre le modifie, là, on parle vraiment de quelqu'un de croche. Là. Il faudrait qu'il soit radié au plus vite.
OK.
Je dirais quand même, tu falsifies n'importe
mais
quoi.
Mais il n'y avait pas non plus d'avantage à le falsifier. Mais toi, le contexte que tu as vu, c'est quoi? Dans quel contexte qu'on se met à modifier ça? Là?
C'est que tu as des arpenteurs géomètres qui donnent des consignes claires aux techniciens, qui disent...
Moi, sur le terrain,
arrive-moi. Bon, jusqu'à là, ça va. OK, on dit... Moi, quand tu sais, l'arpenteur explique, moi, mes levées, c'est ça. Ça, c'est la tolérance des paramètres. Moi, j'accepte 2, 3, 4, 5. C'est son choix. OK. Puis après ça, ben ça va. Ça, jusque-là, il n'y a aucun problème. Mais après, il dit à son technicien, ben écoute, aujourd'hui, il faut que tu me ramènes tant de travaux. Là.
OK.
Puis là, il met la pression.
On va faire ça, ce dossier-là, il faut que tu reviennes avant 11 heures.
Oui, c'est ça, exactement.
Puis là, il peut se retrouver avec une donnée qui n'est pas très fiable, là, ton indice de GDOP,
ouais,
c'est
ça? Ben oui.
Là, son indice n'est pas très fiable, mais c'est la seule qu'il a pu avoir ce matin-là.
Ben parce que physiquement, c'était impossible de le faire autrement. Tu sais, le GPS, lui, qu'est-ce que tu veux, il peut pas... ça va pas changer, peu importe s'il y a un arbre qui a poussé au-dessus de ce qui est, mais l'arbre, il est là en tout temps.
Ouais.
Puis là, ben s'il peut là, pas le faire au GPS, ben il peut peut-être le faire à station totale, mais là, ça va
mais
prendre
plus
long. De temps, beaucoup plus de temps.
Ça fait qu'il arrive, au lieu de prendre la station totale, à être plus précise, il revient avec ses données GPS, avec son appareil. Ces données manquent un peu de fiabilité.
Ben, correspondent pas aux normes que l'arpenteur géomètre lui a données.
OK.
Puis là, ben...
Puis il falsifie...
C'est parce qu'il y a des techniciens qui, à un moment donné, ils se disent, j'ai deux choix. Soit que je me fais engueuler comme du poisson pourri.
Parce que mes données sont pas fiables.
C'est ça. Et ou parce que j'ai pas ramené... Il a peut-être choisi au début de prendre la station totale, sortir, la faire correcte, puis à un moment donné, il ne ramenait pas assez de travail, de mandat réalisé à l'arpentage au mètre. Puis l'arpentage au mètre pousse, met la pression. Puis là, ben,
OK, de toute façon, c'est trop long. De toute façon, ce n'est pas apprécié.
Ben là, le technicien il dit, j'ai deux choix. Soit je me fais engueuler, soit que je trouve une solution pour...
Puis sa solution?
Ben, la solution, ben, on ouvre le fichier texte, puis on change. Moi, j'ai vraiment envie de mes yeux vus. Un GDOB de 12, voir devenir 1.2 avec une virgule entre 1 et 2.
Ah ben oui, c'est facile. Donc lui, la solution la plus simple, c'est j'ai des données qui sont plus ou moins fiables parce que j'ai j'ai une fiabilité de 12. J'ai une fiabilité de 12, c'est pas suffisant. Puis étant donné que je peux falsifier les données, je vais mettre que les données étaient fiables à 1.2, puis ça règle le problème. L'arpenteur va être content.
Ouais.
Moi, ça me permet d'aller plus vite.
Oui, parce que tu sais, c'est. C'est des techniciens n'ont pas nécessairement tout le temps toutes les connaissances pour comprendre la situation.
C'est ça.
Eux, ils vont y aller à leur meilleur. Tu sais, c'est. Il y a beaucoup de techniciens qui disent moi, je pourrais être arpenteur journal, c'est tout moi qui fais la job. Puis. Je suis capable, tu sais, il me reste à signer. Puis, mais finalement, il y a toutes les nuances de la théorie qui leur manquent. Que tout à l'heure, on
disait avec les données de fiabilité puis tout
ouais,
ça.
Ouais, c'est ça. Là.
Ah bon, c'est intéressant. Puis tu dis que tu vois ça de tes yeux vus. Qu'est-ce que tu fais de tes pieds-pieds?
Hey, écoute,
qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu poses comme action?
C'est sûr que, moi, je suis quelqu'un qui est plus puriste que moi, donc. Choc anaphylactique. non, mais je veux dire, c'est comme OK. Rapidement, tu sais, je vois dans ma tête que là, ça y est, tout est infecté. Ou en fait, sur quoi je vais me baser maintenant dans ce système, d'ensemble de tout
ça? Veut dire que toi, tu as vu ça de tes yeux vus, fait que tu te mets à douter de. Tu m'as douté du technicien qui t'a vu faire ça.
Je pose des questions de suite au technicien, et puis là, ils me disent c'est
correct.
Là, c'est garde, qu'est-ce qu'on fait?
Mais c'est peut-être juste lui le problème, fait que j'imagine que tu en parles à d'autres.
J'en parle à d'autres. Là, déjà, le technicien m'avait expliqué que ça se faisait, et puis là, moi, j'en avais un technicien que j'avais travaillé avec. Puis bon, une fois que j'avais été, tout était impeccable. Donc là, je me suis dit, mais que je sais que ma première minute, c'est ici. Il faut que ça soit lui qui est sur le terrain. Puis là, j'en parle. Puis il me dit, écoute, franchement, toi, qu'est-ce que tu penses? Quand il nous donne 5 mandats ou tant de choses à faire, là, t'arrives,
pas le temps de la station totale.
Hey, là, regarde bien, ils ont juste à pas crier puis nous donner du temps. Fait que, on arrange ça, nous autres. De toute façon, on pense pas, c'est pas important. Là.
OK, fait que je comprends pourquoi tu dis ça. C'est-à-dire que là, c'est pas juste un technicien. Ça semble être aussi un autre technicien qui, lui, est plus senior. T'as dit, c'est normal.
Ouais, et puis après ça, il y en a un autre qui arrive, qui entend ça par à côté, et puis fait, certain, tu penses-tu qu'on ça fait depuis...
Okay.
C'est pas nouveau, là, on a toujours fait ça. Ils ont tout
le temps... OK, fait qu'on joue un peu avec les données. Puis t'en parles-tu à ton superviseur à l'époque? Rappelle-moi, t'étais-tu en stage?
J'étais en stage professionnel.
OK, t'étais en stage en plus.
J'étais en stage professionnel.
OK, en plus, ta situation est délicate.
Parce que
t'as pas le plein statut non plus pour t'imposer.
Je l'ai pas, premièrement, parce qu'on me l'a pas donné.
T'es pas encore
arpenteur. Je suis pas encore arpenteur, sauf que en tant que stagiaire professionnel, j'ai tous les pouvoirs d'arpenteur sauf celui de signer.
C'est vrai.
Donc, j'ai
t'as
le droit
toutes les responsabilités aussi.
J'ai toutes les responsabilités. Si je donne une mauvaise information, j'ai la responsabilité de l'arpenteur, j'ai la protection de l'ordre, mais j'ai la responsabilité. C'est sérieux.
C'est ça. T'en as-tu parlé avec ton superviseur?
Oui. Je dirais que. Je l'ai mûri pendant une couple de jours.
Je
dirais que là, je me disais, OK, parce que là, tu sais, de ce que j'ai vu la première fois, je faisais oups, puis après ça, on parle avec l'autre, puis là, ça a fait juste empirer. Puis là, finalement, je me dis, OK, mais faut que je parle, là, parce que sérieux, à un moment donné, ils vont me demander de signer des trucs, puis ils vont me dire de prendre des données dans le système, puis là, moi, je me demandais si.
Non, c'est le bon moment d'agir.
C'est le bon moment d'agir, là. Donc, je vais voir. Je vais voir un arpenteur dans
la
boîte.
Dans la boîte, oui.
Un qui m'apparaît être sage, posé.
Puis.
En partant, tu sais, j'ai dit, écoute, j'ai un problème sérieux. Là. Il fait OK. Mais je dis là, tout de suite en partant, je veux pas que tu me demandes de nom. Parce que sinon, j'en parle pas.
Je vais t'en parler, mais je te dis pas qui.
Ben, je, je, J'ai dit, je veux pas rien, tu sais, je veux pas démolir,
je veux pas te mettre tout le monde à dos parce que je suis stagiaire.
Oui, puis là, tu sais, on envoie faire beaucoup de travaux avec les techniciens sur le terrain, tu sais, je suis une vraie balle de ping-pong, donc finalement, ça, c'est eux autres, les techniciens qui avaient dit ça, mais qui avaient dit que j'étais une balle de ping-pong. J'ai trouvé que ça représentait bien ma situation. Donc, on m'envoie un peu partout.
Je ne veux pas empirer non plus ma situation. Ça va déjà pas très bien.
La relation est meilleure avec les techniciens.
Fait que je ne veux pas me les mettre à dos, mais je vais t'en parler quand même du problème.
Parce que c'est sérieux.
Il fait quoi?
Il me dit OK. Fait que j'explique la situation. Puis là, il est là. Ah, ouais. Ben non, t'es pas sérieux. Ben oui, mais pourquoi il ferait ça? Puis là, il est surpris. Puis il me dit tout le temps, mais non, ça n'a pas de sens. Pourquoi il ferait ça?
Oui.
Puis là, je me souviens vaguement, tu sais, avoir essayé d'y expliquer que, tu sais, c'était peut-être la façon aux techniciens de répondre à la pression indue.
Ouais.
De la quantité de travaux à faire.
Ils n'ont pas le temps de faire bien les choses, peut-être.
Non, ils n'ont pas le temps. Puis les arpenteurs ne donnent pas le temps de bien faire les choses.
Dans ce cas-là, ça me semble évident.
Oui. Donc.
Fait que tu lui expliques ça, puis il dit quoi?
Ben là, il me dit OK.
On va.
Là, il
faut faire de quoi, là?
Faut que tu me. Ouais. Là, écoute, c'est sérieux. Fait que moi, je reviens au bureau. Il y a plusieurs bureaux. Donc, je reviens la semaine prochaine. Je vais être ici mercredi. Mercredi matin, 8h, on s'assoit. Puis tu me proposes un plan d'action.
Quel plan d'action vous avez
Moi, j'en avais trouvé. Ouais, j'ai trouvé des. Bon plan d'action.
Mais
des logiciels très peu onéreux, on parle peut-être 600, 1000 piastres.
En quoi un logiciel, c'est une piste de solution?
Le logiciel, c'est que lui, il permet de. Les appareils d'arpentage peuvent exporter un fichier de données en ASCII qui est modifiable, puis un fichier
crypté.
Donc là, on a accès aux données cryptées, puis c'est le chèque.
Celles-là ne sont pas modifiables.
Exactement. J'ai même été, mon petit frère qui fait de la programmation, à un moment donné, Jean-Jacques, puis il m'a dit pas de problème, il m'est revenu avec ça après 2 jours. Regarde, je t'ai fait un petit programme, puis dès que quelqu'un va changer un fichier, ça va noter.
Laisser une note.
Sur quel poste la modification a été faite, puis il va prendre un backup du fichier avant.
Mais logiciel, c'est une très bonne idée. Mais logiciel, tu disais, avec le logiciel en question que tu souhaitais proposer comme modification, ces logiciels-là produisent à partir de l'appareil un fichier crypté, non modifiable.
Ouais.
Donc, ça empêche la tentation de peut-être déplacer une virgule, comme tu nous disais un peu plus tôt.
Tu pourrais toujours le faire dans le fichier ASCII à côté, là, tu sais.
Mais
quand j'arrive au final, puis que j'exporte
si t'as des doutes, tu peux
le
retourner.
Rapport, puis j'y confronte les deux rapports ensemble, bien clairement que tout de suite...
Mes données cryptées, les données ACI modifiées.
Bon, on est capable tout de suite de faire sortir...
Puis ce logiciel-là, as-tu été acheté finalement ou...
Il aurait fallu qu'il y ait vraiment la rencontre. Préalablement.
Finalement, il n'y a pas eu de mercredi matin?
Il n'y a pas eu de mercredi matin. Il y a des mercredis matin, mais il n'y a pas eu de mercredi matin.
Il
n'y a pas eu ce mercredi.
Bon, fait que ça a été en plan, fait qu'on... Voilà, ça se peut falsifier, ça se passe comme ça.
Ouais.
On déplace une virgule. Pourquoi? Parce que c'est possible, parce que c'est tentant, parce que c'est plus simple, il faut se mettre à la place du technicien, il manque peut-être de temps, de ressources, puis pourquoi pas déplacer une virgule quand c'est possible.
Mm-hmm.
Ça me permet de travailler plus vite, pas sortir nécessairement la station totale que vous appelez.
Ouais.
Pas besoin de faire ça, on contourne un peu. Habituellement, les arpenteurs sont satisfaits, sauf quand tu as quelqu'un qui, des fois, se rend compte qu'on fait ça, on pose trop de questions. Puis finalement, la façon de résoudre le problème dans ton cas, ça n'a pas été de résoudre le problème. Le problème est resté tel quel.
Mm-hmm, ouais.
Puis peut-être que ça se produit encore.
Ouais.
Fait qu'on n'en mentionnera pas.
Non.
On ne parlera pas c'est qui, mais disons comme ça que ça se peut. C'est à ça que ça peut ressembler, la falsification.
Mais c'est en front, là, je veux dire, l'entreprise a des Il y a des formulaires très bien faits, puis ça a l'air sérieux. Là.
Bon,
ça,
voilà.
Très c'est, sérieux,
c'est,
je
veux dire.
C'est la différence entre... Ouais. On s'entend, là, c'est, ça n'a pas l'air d'une boîte broche à foin. Là.
Non, non.
C'est, en première apparence, c'est très sérieux. Là.
Donc, ce genre de petits détours-là, de contournement est possible dans les meilleures boîtes,
ouais.
Dans les meilleures entreprises, entourées d'arpenteurs. Donc, c'est possible. Ça peut se faire. Pourquoi ça se fait? Parce que c'est plus simple. Ça, on manque de temps, de ressources. On y revient. Là. Pression patronale, des fois. Ouais.
Puis ça se fait aussi, je t'avais pas parlé, mais disons, si l'arpenteur ne va pas sur le terrain, les techniciens doivent... En fait, l'arpenteur doit avoir une façon de vérifier que le revêt a été fait correctement. Donc, ce qu'il fait, c'est des photographies. Puis là, ben, des fois, tu sais, les techniciens disent hey, non, on prend pas là-bas, on dirait qu'il y a un fossé ruisseau, là. Essaye de t'arranger qu'on le voit pas, sa photo. Parce que sinon, ça va nous prendre une demi-heure, une heure, aller tout relever ça. Là.
Ah oui?
Ouais.
Bon, ça, c'est une autre façon. La photo est fiable, mais le choix de prendre tel angle ou tel. Donc, c'est ça. On ne falsifie pas l'information, mais on choisit l'information qui sera diffusée.
Mm-hmm.
Ça aussi, ça fait... Ouais. Des fois, quand les étudiants veulent parler de falsification, c'est plus cet angle-là qu'il faut choisir, c'est-à-dire pas nécessairement une donnée qui est claire, affirmée, qu'on modifie, mais plutôt un choix de données à rendre public, des données à éviter. On va prendre telle partie du terrain, pas telle autre.
Ouais.
Bon, j'imagine que ça se voit aussi dans d'autres domaines. Oui. Choisir l'échantillonnage, par exemple, dans d'autres domaines, ça se voit. Là. Pourquoi échantillonner à telle place, à tel moment, plutôt qu'à tel autre moment, à telle autre place. Donc là, c'est dans ces zones-là là, où on peut se permettre d'agir un peu sur la donnée. Un autre, merci pour ce beau problème, effectivement. C'en est un vrai beau problème d'éthique. Puis c'est très nuancé aussi, la façon que tu l'as exprimé. L'autre problème dont on avait discuté aussi en pré-entrevue, Alexandre, c'était des associations, donc les associations entre les arpenteurs, les bureaux d'arpenteurs, puis les agents immobiliers. Tu vois, c'est quelque chose que je connaissais moins. Tu me disais que c'était délicat encore là. On ne parle pas de fraude, de manquement, mais ça place l'arpenteur... dans une situation qui est délicate. Donc, explique-moi un peu, c'est quoi c'est... D'ailleurs,
quand on parle de
quand tu m'en avais parlé, je t'en ai pas mentionné, mais Marc Gervais, ici, à la faculté de sciences géomatiques, m'avait aussi parlé de ce problème-là. Décris-nous un peu à quoi ça ressemble, cette association-là.
Oui, parce qu'on parle d'association, mais c'est pas un... Concrètement, c'est pas une association. C'est, disons, c'est de la proximité des...
Ils ne sont pas associés officiellement.
Non,
c'est simplement du bon commerce, une alliance commerciale.
C'est ça. Les courtiers immobiliers, eux,
vendent des maisons.
Vendent des maisons, puis ils en vendent beaucoup.
Ben oui, c'est ça, puis le but. Les bons en vendent beaucoup. Oui,
ouais, c'est ça. Puis, en gros, le propriétaire qui vend sa maison à l'acheteur ou l'acheteur qui achète, peu importe, ben eux, souvent, c'est pas quelque chose qu'on réalise à tous les jours, donc ils sont dans l'inconnu. Puis le courtier immobilier, ben lui, il en fait plusieurs. Donc
imaginez-vous,
vous êtes... Il comprend la situation, puis il guide le client. Hein, inquiète-toi pas, comment ça marche, le notaire va faire ça comme ça à telle date, puis il va t'appeler, puis
voilà,
ça va te prendre un certificat de localisation parce que la banque va te l'exiger. Fait
qu'imaginez-vous, là, vous êtes étudiant, là, bientôt vous allez acheter votre maison, là, je vous rassure, puis vous préparez à acheter votre maison, habituellement on fait affaire avec un courtier en valeur immobilière, puis celui-là il arrive, puis il vous dit « ben c'est bien, on va acheter ou on va vendre votre maison ». Puis pour la vente, ça exige, ben, on va avoir besoin d'un notaire, mais on va aussi avoir besoin d'un arpenteur géomètre pour faire un certificat de localisation, délimiter, être sûr là, sur les limites, les bornes de votre terrain. Là, je m'aventure
un certificat, c'est un bilan de santé de la propriété, en gros. Là.
Un bilan de santé, pas de la santé physique de la propriété.
Mais ben, de la santé, non, pas, pas, pas le... pas à quel.
Pas la maison, là, si, si.
Pas si la maison est en bon état ou pas, c'est pas ça, mais c'est est-ce que la maison est construite sur mon lot? Est-ce que la remise du voisin, est-ce qu'elle empiète sur mon lot? Ou voilà. Est-ce que moi, ma remise que je vais acheter, est-ce qu'elle empiète sur le lot voisin? La haie, la.
Oui, c'est parce ça. Donc, tu n'étais pas là, là pendant que la maison a été construite, les modifications, tu le sais pas. Ben, ils ont construit une piscine, ils ont construit une clôture, tout ça, est-ce que c'est en règle? Puis c'est à ce moment-là que l'arpenteur géomètre va se pointer.
Ouais.
Puis ça, c'est compliqué. N'importe qui a jamais acheté une maison, ben moi, quand j'ai acheté ma maison, j'en connaissais pas d'arpenteur. Le courtier en valeur immobilière peut dire, ben, tu sais quoi, moi, je suis là, je t'accompagne pour l'achat ou la vente de ta maison. Puis je connais un bon notaire, puis je connais un bon arpenteur.
Ben oui.
Puis ça, non. Puis ces alliances-là se font dans ce genre de contexte-là?
Ben oui, c'est ça. Tu sais, c'est le client souvent qui... Tu sais, en fait, c'est l'agent immobilier va peut-être proposer au client de dire, écoute, si tu veux, je m'occupe de tout.
Ouais.
OK, garde, je vais être... Tu sais, ça fait partie de ma commission, je vais appeler tout le monde. Laisse-moi le... Donne-moi le... Confie-moi le mandat, entre guillemets, d'appeler tout le monde. Puis je vais tout t'arranger ça. Puis okay. Tu peux dormir sur tes deux oreilles.
Fait que je vais te trouver, entre autres, un arpenteur géomètre. Ouais, je le connais bien.
Puis je sais que de ce temps-ci, là, ouais, il y a beaucoup de jobs, là, tout le monde. Là, mais tu sais, il me connaît bien. Puis tu vas voir, ça va être d'un délai comme tu as besoin. Puis regarde, ça, tout va bien aller. Puis regarde, il me fait un prix. Là, fait que je vais te réussir à t'avoir ça 100$ de moins. Là.
Puis les alliances entre arpenteur, géomètre, puis courtier en valeur immobilière, c'est en valeur immobilière plutôt, c'est qu'il y a un courtier qui va toujours confier ses certificats au même bureau d'arpentage?
Ben, règle générale, oui, c'est ça. C'est que lui, il fait affaire, tu sais, il va pour, premièrement, c'est pas lui qui paye. Donc, lui, c'est pas une question d'argent. Lui, c'est une question de faire la vente au plus vite. Puis de, tu sais, donner du service, puis que...
Donc, il veut
que son nom soit bon, là, au point de, tu sais, dans la population des acheteurs éventuels, tu sais, dire, hey, va avec lui, il a tout, c'est tout occupé, puis...
Puis ça va vite,
il
puis...
Il va te négocier 100$ sur ton certificat. Il va te négocier 100$ ton certificat.
En plus.
Alors que la commission de l'agent est peut-être de 10-12 000.
Ben oui, c'est ça.
Mais tu sais, puis là, il te dit, garde, tu vas voir, tu vas sauver, là. Donc,
fait que lui, il promet au client que ça va se faire vite.
Mais ouais, lui, il
débarque. Puis il promet quoi au bureau d'arpenteur? OK, il leur promet, dans le fond, de leur donner.
Le bureau d'arpenteur, en fait, il fait pas de promesses textuellement comme ça. C'est simplement que cette personne-là t'appelle une fois par jour.
J'en ai un autre.
J'en ai un autre.
J'ai un mandat.
J'en ai un autre. Puis là, tu fais, hey, écoute, ça, là, c'est.
Il commence à être 10, intéressant.
15, 20, 30, 50% de ma clientèle, là, c'est ce gars-là. Là. Fait que, sérieux, là, quand il appelle, là, tu lui dis oui parce que.
Parce que lui, il va nous en confier encore. Là,
ouais, puis l'hiver, quand ça va être un petit peu plus tranquille, ou, tu sais, en tout cas, on est sûr d'un fond, là, on est correct, là. C'est lui qui assure la pérennité de l'entreprise. Là.
Mais les bureaux d'arpentage, est-ce qu'il manque à ce point-là de contrat? T'sais, j'essaie de trouver le levier. Là. Qu'est-ce qui donne de la force au courtier? Il donne des certificats, mais j'imagine que les bureaux, ils doivent en avoir plusieurs. Là,
là présentement, là, c'est l'enfer.
Ben, il y en a plein, là.
Il n'y en a pas plein, il y en a trop.
Ah, ben c'est ça. Ben,
c'est capoté.
OK, fait qu'en ce moment, c'est ça. Là, on est dans une vague de... Il y a beaucoup de ventes, il y a beaucoup d'achats, ça va, le marché immobilier roule. Puis pour les arpenteurs, c'est bon, ils ont plein de certificats.
Oui, mais il y a aussi, il y a beaucoup d'arpenteurs géomètres qui ont pris leur retraite dernièrement, puis qui sont en train de la prendre.
Bon, fait que vous récoltez ces...
Ah ouais.
Mais écoute. En quoi, c'est-à-dire que c'est ça, là. Donc là, tu as ton courtier qui te dit, moi, je vais te donner plein de certificats, mais tu pourrais lui dire, ben j'en ai déjà plein, je n'ai pas besoin.
Ben, il y a, tu sais, il y a... OK.
Ces alliances-là ont été comment créées dans quel contexte?
Oui, c'est ça. C'est un peu drôle à expliquer. C'est comme dire qu'il y aurait de l'or partout à terre, puis que cet or-là, elle aurait sa pleine valeur, puis qu'on pourrait juste ouvrir la porte puis la pelleter dans notre maison.
Oui, mais elle n'a plus de valeur s'il y en a pour tout le monde.
Non, non, il y en aurait de la valeur. Là, elle vaudrait toute. Là, puis que dès que tu sortirais, là, tu te battrais avec tes voisins pour pas qu'ils prennent de l'or à terre, dans la rue, à la main de chez vous. Puis tu sais, ça ressemble à ça. Là.
C'est ça. C'est-à-dire que des certificats, il y en a beaucoup.
Oui. Beaucoup, puis les arpenteurs étaient...
Mais les arpenteurs en veulent quand même beaucoup, mais ils en ont beaucoup, ils en ont même trop.
Oui, puis ils font mais des deals d'un prix, c'est comme ça, ça...
Mais j'essaie de voir l'alliance avec
Comment ça, d'où ça vient, ça, là?
Oui, d'où ça vient, cette alliance-là, s'il y en a autant?
Parce qu'actuellement, elle est difficilement explicable quand on regarde ça. Dans
ben oui, quand tu regardes le contexte en ce moment.
Dans le contexte des années présentes. Par contre, dans les années 90, à peu près, on m'a déjà expliqué, là, un arpenteur qui m'avait dit que les certificats de localisation dans le coin de Montréal, c'était descendu à peu près à 100$.
OK. Fait qu'il y a eu un moment...
Il y a eu des disettes. Okay, il y a eu des périodes de disettes.
Des périodes de vache maigre où là, il n'y en avait plus de contrats. Il y en avait beaucoup moins. Là.
C'est ça, beaucoup moins. Puis, tu sais, tout le monde se cannibalisait pour réussir à survivre.
OK, là, donc la tarte est beaucoup plus petite. Donc là, tu as les bureaux d'arpentage qui se mettent à être en compétition parce que là, il y a les certificats, il y en a moins.
Oui. Ben, tu sais, en fait...
Puis ces alliances-là ont été créées dans ce genre de contexte, peut-être?
Oui, en fait, c'est pas les alliances, c'est la proximité. Hein, c'est cette proximité. En fait, elle n'a pas été créée comme ça. Elle prend source dans le fait qu'il y a eu des périodes tellement de vaches maigres qu'il y a des gens qui ont eu tellement faim qui maintenant ont peur d'avoir faim.
OK, c'est ça.
OK, c'est la peur.
C'est la culture, tranquillement, qui est restée là.
Ben oui, écoute, là, je veux dire, tu sais, prends quelqu'un qui n'a pas mangé, là, qui est perdu dans le désert pendant un an, on le retrouve, là, crois-moi. Là,
il va se faire des réserves tout le temps.
Je veux dire, ce gars-là, ou cette fille-là, va arriver, ben, elle va manger sans faim, là.
OK, je comprends l'analogie. Donc, ça a été créé dans un contexte de vaches maigres. Il n'y avait pas beaucoup de certificats de localisation. Il y en avait beaucoup moins. Les bureaux d'arpentage se retrouvaient en compétition.
Ouais.
Puis là, pour eux, à ce moment-là, ça a été payant, au sens propre et figuré, de faire des alliances comme ça avec des
d'offrir courtiers. Du service au courtier puis de lui dire oui à tout ce qu'il peut te demander parce que tu disais... Hey, peut-être que c'est 100 ou 200, je sais pas, mais au moins, je vais en avoir. Là. Parce que sinon, comment je vais faire pour passer à travers ça?
Donc, tu as ce type d'alliance-là qui est culturelle.
Ouais.
C'est peut-être une mesure de prudence, c'est-à-dire que peut-être qu'il y aura d'autres situations plus délicates de vache maigre. Ça se peut que ça se reproduise.
On ne sait pas.
Puis on aura toujours ces courtiers en valeur immobilière-là qui pourront nous donner des contrats.
Oui, c'est ça. Puis il y a aussi, tu sais, les jeunes peuvent être tentés, eux, ils débarquent sur le marché du travail. Le jeune qui se porte une nouvelle boîte, qui est connu de personne. Ben, si tu es capable d'être, tu sais, d'avoir un courtier qui t'aime beaucoup, ben, tu fais, hey, au moins je vais avoir ces contrats.
Au moins je vais avoir ces contrats.
Tu sais, je peux y voir rapidement un sentiment de sécurité pour un jeune qui a pas connu c'est quoi la fin. Puis,
il a fait,
tu sais, en partant, là, il dit, moi, là, faut que ça arrive, là, comment je vais faire. Puis là, le courtier arrive, puis là, tu sais, c'est comme, il te demande des affaires. Puis
la pression indue de ces courtiers-là, c'est-à-dire que c'est indue au sens, peut-être même pas intentionnel, c'est-à-dire qu'eux veulent que la vente se conclue le plus rapidement possible et le plus simplement possible.
Ouais.
Puis ça pourrait influencer un peu le jugement de l'arpenteur qui, lui aussi, veut que ça se règle aisément, simplement, rapidement.
Fait, l'arpenteur, lui, ce qu'il veut, c'est vivre comme tout le monde.
Oui.
Donc, il veut des contrats. Et puis, à un moment donné, tu sais, l'agent immobilier peut... ça peut aller simplement de la pression pour faire passer, tu sais, pour que tu livres dans des délais qui sont... très court le mandat, tu sais, j'ai vu du... je suis allé sur le terrain, m'en est faire un levé, parce que l'arpenteur, il m'a dit, c'est mon chum, l'agent immobilier, là, il va à la maison, puis il en a besoin pour demain.
OK.
Puis là, il est 4 heures le soir, puis il me dit, hey, sérieux, il faudrait que tu ailles faire le terrain ce soir, puis demain, il faut faire le plan, le texte, toute l'analyse, puis 4 heures demain, il faut qu'on livre. Là, on parle d'un certificat de localisation 24 heures. alors qu'il y avait des délais d'un mois et demi, deux mois pour quelqu'un qui appelait.
Donc la pression est là, la pression, ça revient un peu à ce qu'on disait, là, c'est-à-dire que là, tout à coup, l'arpenteur se retrouve avec un manque de temps, manque de ressources qu'il s'est lui-même un peu imposé.
Ah oui, 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 c'est ça.
Puis ce manque de temps, manque de ressources va lui faire tourner peut-être quelques coins ronds.
Tourner des coins ronds, va faire décaler des mandats des personnes à qui on avait promis le lendemain de quelque chose qu'on a retardé.
On va privilégier ce client-là au détriment d'un autre, alors que les deux devraient avoir les mêmes droits en tant que tels.
Oui, c'est ça. Après ça, on va peut-être, pas trop parler de certaines choses qu'on a relevées sur le terrain, de l'occupation, ce qu'il pourrait y avoir de la prescription. Donc, ça, c'est quand quelqu'un occupe, je le fais vite fait, là, mais disons, quelqu'un occupe plus grand que son terrain, avec certaines conditions, à un certain moment donné, il peut devenir propriétaire de.
Peut-être fermer les yeux sur une situation qui potentiellement peut être litigieuse.
Ouais, je vais aussi la décrire, choisir des
choisir les mots.
Des mots pour la décrire pour que ça soit pas. Que ça ne se transparaisse pas autant que ce que ça devrait.
OK. Fait qu'on joue sur la clarté du langage pour que la vente se conclue plus rapidement sans nécessairement compromettre ta propre intégrité. Tu mens pas, mais en même temps... J'imagine que c'est ça l'intention, c'est que tu maquilles un peu...
Donc, tu cherches tu cherches à en mettre suffisamment pour que si on te pose une question, c'est comme ça que je l'ai dit. Là. Je pensais que c'était clair, mais que quelqu'un d'autre pourrait faire « Ah, ben non, moi, j'avais pas vu ça de même. »
Alors que le but de l'arpenteur, c'est justement au contraire d'être très clair dans ce qu'il aimait là, comme opinion.
Nous,
là.
C'est des faits qu'on reporte.
Et non pas de jouer comme ça. C'est intéressant. Donc, on voit là que ces alliances-là sont correctes. Ça fait l'affaire du client, ça fait l'affaire du courtier, ça fait l'affaire de l'arpenteur. Mais à terme, ça peut mettre l'arpenteur dans une situation délicate où, là, manquant de temps, manquant de ressources, il peut faire quelques compromis, sinon des compromissions.
C'est ça. T'sais, mal décrire des fenêtres. J'ai vu dans le code civil les termes qui sont utilisés pour les fenêtres, des vues, il y a deux paramètres, un qui est translucide puis l'autre dormant.
Okay.
Donc, dormant, ça veut dire que ça a trait à savoir si la fenêtre peut s'ouvrir ou pas.
OK.
OK. Translucide, c'est que la lumière passe à travers.
Ouais.
Si la fenêtre n'est pas... si tu n'es pas capable de voir à travers, mais que... qui passe, c'est pas translucide. Donc là, ça y va à certaines conditions. Puis là, on va marquer givré.
OK.
Ouais. Le givré. Premièrement, pourquoi tu prends pas le bon terme?
Il y a des termes.
Je veux dire, c'est ça le terme. Si ton client va chercher dans le code civil, si c'est givré, là.
Il le trouvera pas.
Il va trouver des mini-wheat au resto ou à l'épicerie.
Il y a des termes techniques, il faut les respecter.
C'est choisir son terme, puis finalement, vu que le terme n'est pas tout à fait pareil, c'est ça, là.
Eh bien. OK. Fait que des alliances. Des cas, les deux premiers cas, ce sont quand même délicats, ça joue dans les zones de gris.
Ouais.
Mais plus tôt, tu me parlais aussi, mais aussi, c'est aussi dans la pré-entrevue, tu me disais que tu avais été aussi témoin de carrément, là, c'était un peu moins gris, du moins la façon que tu le décrivais.
Ouais.
Le contexte était peut-être plus gris, mais le geste un peu moins, c'était carrément, on te donne des bouteilles de vin pour essayer d'influencer un peu ton jugement. C'est comme ça, je le décris.
Grossièrement,
dans quel contexte?
Non, on parle de vrai vin. Là. Ici, c'est des raisins.
c'est un pot de vin au sens propre. Là,
dans tous les sens. Là, mais en fait, je m'en vais sur un terrain de quelqu'un, puis moi, j'arrive, puis j'ai aucune idée du background, de qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier. On me dit juste, va faire un levé de topo. Donc, en gros, il y a je sais que le monsieur, il a un chalet en bordure d'un lac, puis il veut se faire un agrandissement. Puis on veut juste aller voir si l'élévation du terrain à cet emplacement-là est conforme.
Oui, tu veux que le terrain soit suffisamment élevé parce que c'est
ouais,
le lac qui se met à déborder.
Oui, puis tu sais, il y a un barrage dans ce coin-là, il y a une cote d'élévation, donc il y a de quoi d'assez précis même. Puis là, ben,
ça prend un arpenteur pour dire le terrain est suffisamment élevé.
Oui, bien, l'arpenteur va dire, c'est ça, lui, la personne, ça lui prend un plan d'arpenteur pour dire qu'il peut construire cet emplacement-là. On signe ça, on envoie ça à la municipalité. La municipalité donne le permis de construction.
OK.
Si moi, je vais, puis que je me rends compte que finalement...
Il n'est pas suffisamment élevé. Puis la distance par rapport au lac n'est pas suffisamment grande.
Je veux dire que ça ne correspond pas aux règlements puis aux normes.
Et toi, tu le dis, ben, puis tout de suite, il n'y aura pas les papiers, là.
Ben, il y aura même, tu sais, le client, il va juste savoir que ça, tu sais, je vais juste lui dire que ça ne peut pas se
désolé,
construire.
Désolé, ça
ne se fera pas. Je ne peux pas te faire un plan avec tout ce que ta maison va être. Je peux juste te faire même peut-être un plan pour te dire, voici où tu pourrais faire une maison, là, mais je ne peux pas te dessiner une maison là-dessus.
Mais toi, tu es convoqué, tu arrives là-bas pour voir si la maison est suffisamment élevée.
Ouais.
Puis tu constates quoi?
Bon, ben, en partant, la personne très sympathique arrive, puis là, ben, elle me parle, tu sais, elle me dit, bon, ben, ouais, c'est ça, tu viens faire un levé pour voir, tu sais, l'élévation du terrain, ouais, ouais. Puis là, il me dit, ah, je sais où faut que tu fasses ça, là, OK, bon, tu sais, je l'écoute, mais tu sais, j'ai mis plein
des outils.
Mais, ouais, j'ai déjà un croquis qu'on m'a fourni parce qu'on était déjà venu dans les coins. Mais tu sais, je fais OK, je vais juste vérifier. Puis là, lui, il me sort un plan, une photocopie de ce plan-là. Ah, tu sais, puis là, il y a du crayon plomb, là, tu sais, comme une zone. Puis il me dit tiens, c'est là que j'ai fait le remplissage.
Ah, OK.
OK.
Donc, il a déjà fait du remplissage.
Ouais, puis là, il m'explique, tu vois, quand je suis allé, là, il m'a expliqué là, l'arpenteur, c'est où il fallait que je mette la terre. OK.
Fait que t'as un arpenteur qui avait déjà passé avant, puis qui avait dit, tu dois mettre de la terre, tu dois remplir pour être plus haut.
Ouais, c'est ça. Mets tant de terre là, puis...
Puis là, tu vas être suffisamment haut.
Mais que je revienne, je vais prendre des positions, puis ça va fonctionner.
OK, donc l'arpenteur était passé avant, puis il a dit, je prends pas tout de suite les positions.
Non, mais il a envoyé ses techniciens, il avait fait un levé.
OK.
Puis là, il arrive au bureau, puis quand que la personne vient, ben, elle fait ce qu'on a, tu sais, il lui répond...
J'étais désolé.
Pas là, mais il lui répond à peu près sensiblement ce je pense que ce qu'on
donc,
a
il y avait
dit,
déjà une
genre,
réponse. Eh oui, désolé.
Regarde, ben, regarde, tu pourrais pas parce que, tu sais, puis l'autre, il doit y avoir dit, on n'extrapole, mais tu sais, ça doit s'être passé quelque chose du genre, ouais, mais qu'est-ce que je pourrais faire? Puis l'autre, l'arpenteur, il peut avoir clairement avec son crayon plomb que j'ai vu sur la feuille, fait un petit dessin et dire, ben, regarde, là, c'est ici que c'est problématique, il faudrait que ça remonte de tant de centimètres.
OK, donc là, tu as un arpenteur.
15-20 centimètres.
Tu as un arpenteur qui dit au client en question, ben, tu pourrais. Ce qu'on est allé voir sur le terrain, ça ne marchera pas. Ton terrain est trop bas. Par contre, tu pourrais l'accroître en élévation. Puis si tu respectes là, le petit pointillé, là, mais là, j'étais en train de le dessiner, puis on fait ça, mais à radio, ça passe moins bien.
Non.
Mais si tu élèves ton terrain, ça va régler le problème.
Ouais, c'est ça.
Puis donc, il a élevé
ouais.
en respectant probablement ce que l'arpenteur lui avait dit. En tout cas, il a essayé.
Ouais.
Puis là, toi, tu arrives après sur le terrain.
Pour confirmer qu'il a réussi à élever.
Pour confirmer qu'il a réussi à l'élever suffisamment.
Ouais,
okay.
C'est ça. Fait que là, puis là, il me dit en partant, il dit ah. Ton boss, il doit aimer le vin. Là. J'ai une bouteille de vin pour lui.
Ah!
Fait que là ça, moi, en partant, je regarde le monsieur, je fais, ben, ça, écoutez, vous allez aller rencontrer au bureau, écoutez, regardez
oui, il donnerait,
ça.
Là. Puis...
Ouais, ben, je veux dire, tu sais, parlez-en à lui, puis si vous voulez
lui
donner...
Effectivement, il aime ça, le vin, vous lui donnerez vous-même.
Ben, je veux dire, écoutez, là, j'en ai avec lui, là, parce que, je suis bon, je... Ben, tu sais, je veux pas nécessairement lui faire un cours d'éthique 101 puis expliquer jusqu'où une bouteille de vin peut
ouais, c'est ça.
Tu sais, on veut pas... Ça, c'est... Laisse-moi le conséquentialisme.
Oui, c'est ça.
Oh.
Je veux pas...
Non, mais là, je m'en souviens.
Oui, c'est ça. Je ferais pas
c'est loin,
une liste des conséquences positives et négatives liées
ça.
À une bouteille de vin. Là. Mais disons, remets-y, puis il fera son calcul lui-même.
Oui, c'est ça. Fait que, puis là, je commence mes affaires. Puis là, j'ai mon appareil dans les mains, puis je pars. Comme que je pars, puis là, il arrive, puis il rouvre la porte du camion de l'eau bord, puis il dit, tiens, ben, j'en ai une pour toi. Puis là, il met là, tac, puis il ferme la porte. Puis là, je suis là, oh, non.
OK. Fait qu'il y en avait un autre de prêtre pour toi aussi.
Ah, mais écoute, là, il était en désir profond de donner du vin cette journée-là.
Il aime ça, le vin. Il aime ça partager ça. Son enthousiasme
ben,
pour
oui,
le vin.
Oui, c'est ça. Fait que, il met la bouteille de vin là. Je suis, ah, merde. Et puis là, ben, moi, j'écoute. Moi, je fais ma job, là. Je veux dire, je fais la topo, là, où ce qu'elle va être faite, là. Donc, je vais prendre les mesures, mais, tu sais, sans plus, tu sais, ben, je veux dire, sans plus, j'offre le service correct, sans que j'ai... Je fais pas de compromis sur rien, là, tu sais, je fais juste ma job, mais là, quand vient le temps de partir, là, je fais... Là, le monsieur est là, puis là, je prends la bouteille de vin, puis là, je vais voir, puis là, je dis, ben, écoutez... Je peux pas l'accepter. Là. Je vous remercie beaucoup. Là. C'est très gentil. Là. Sérieusement, ça me flatte que vous m'offriez quelque chose comme ça. Mais moi, je commence ma carrière. Là, puis quand que je vais signer un plan, là, les gens qui vont le lire, je veux qu'ils se disent ben, cet arpenteur-là, bon, hein, sérieusement, là, il accepte pas de pot de vin. Là. Fait que s'il a signé ça, là.
C'est pas à cause d'une petite bouteille de vin qui
écoute,
a peut-être influencé.
Même une bouteille de vin, tu l'auras pas.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, c'est... Fait que... Puis j'y redonne...
Mais c'est juste une bouteille de vin, Alex.
Ouais, mais ça, c'est comme se dire que, tu sais, c'est... Dans un verre d'eau, pour qu'il déborde, ça prend juste une goutte. C'est la
mais
première
oui.
ou la dernière qui fait déborder le verre?
Ben, c'est une bonne analogie. Je pense que je vais te la voler.
Ouais, vas-y, je la donne.
OK, ouais. Donc, c'est la première bouteille de vin qui est trop ou la centième qui est trop?
Ouais. Puis déjà en partant, pourquoi t'en as 100?
Ouais, comment t'as pu te ramasser?
Si t'as eu 100 bouteilles de vin,
ben, tu te dis à toutes les fois
qu'il y en a eu une au début.
Ouais, c'est que tu te dis qu'à toutes les fois, c'est pas une petite bouteille de vin qui influence mon jugement.
Non.
Mais dans ton cas, c'est important aussi de préserver la confiance que éventuellement quelqu'un pourrait avoir en ton jugement, c'est-à-dire que c'est pas son jugement est intègre, puis c'est vraiment pas... Il n'a pas été influencé par rien, puis par rien, il n'y a pas non plus cette petite bouteille de vin-là qui aurait peut-être pu faire une légère différence, même
non.
ça a été...
Puis, tu sais, le monsieur, tu sais, il y a des... Il voulait avoir des mesures assez grandes, tu sais, puis des fois, il disait, « Ah, tu peux-tu aller mesurer jusqu'ici, parce que, tu sais, prendre une position là, des fois que... » puis moi, tu sais, on m'avait dit, ah, c'est là ton cadre, puis tu en viens après. Puis là, écoute, ça me prend 30 secondes, je vais marcher jusque-là, je vais y donner. J'y ai donné, même si j'ai pas pris sa bouteille de vin. Tu sais, puis c'était pas, pas rien de gagne. Tu sais, moi, ce que je voulais faire comprendre, monsieur, c'est, je vais vous donner un super bon service, puis vous me devrez jamais rien de plus que
puis
mes
moi
honoraires.
Non plus, je vous
c'est ça.
Devrais jamais rien.
Ouais.
Bon, ben, t'en as des anecdotes, Alexandre, on pourrait passer 2 heures facilement ensemble. On va passer peut-être à la dernière partie. Habituellement, quand je reçois mes anciens étudiants, on parle des problèmes rencontrés, mais on pourrait peut-être aborder ensemble les pistes de solutions, de quoi ton ordre ou de quoi ta profession aurait besoin pour plus d'éthique, plus d'intégrité.
Ouais, ouais. Puis ça, c'est la partie complexe.
Ben oui.
Ouais, parce que c'est ça, c'est Jésus-Christ. Puis c'est difficile, là. C'est... Bon, on en discutait peut-être plus tôt un peu, mais on peut passer autant de lois puis de règlements qu'on veut. Si on se donne pas les moyens de les mettre en appliqué puis de les vérifier, c'est comme s'ils n'existaient pas.
Mais non, c'est ça. Donc, il faut se donner les conditions. Les lois, on les connaît. On sait qu'il faut les respecter.
Ouais.
L'intégrité, on sait c'est quoi. On veut bien être intègre, mais ça prend les conditions suffisantes ou minimales pour pouvoir les mettre en œuvre. Puis les conditions, c'est quoi que vous avez besoin comme conditions?
Oui, bien, premièrement, tu sais, avant même d'aller augmenter les ressources, c'est d'être formé puis d'être informé. T'sais, c'est d'être assis là aujourd'hui dans ce cours-là, puis d'écouter, puis de comprendre qu'on va passer d'un milieu universitaire où ce que tout est blanc et noir, ligne franche, à que du gris.
Que du gris, hein.
T'sais, ça, faut être
donc
prêt
être
à ça,
formé, préparé, mieux préparé à ce gris-là.
Oui, oui, oui.
Se pratiquer, là, tu parles de la formation, ça, c'est sûr.
T'sais, prendre le temps de le réfléchir, tu sais, de la poser la question, puis déjà essayer de se faire un plan de match dans la tête, comment je vais la refuser, cette première bouteille de vin-là.
Ouais, déjà,
de se voir la refuser. Mais, ouais. Parce que si... Moi, en fait, là, ça faisait longtemps que je l'attendais.
Tu l'attendais. J'ai hâte.
Oui, je l'attendais depuis longtemps parce que je me suis dit, ça va arriver un jour. Puis celle-là, là, il faut que je la refuse. Sérieusement, là, je veux dire, écoute, là...
Mais ça peut prendre diverses formes. Là, il y avait... Là, on a parlé de la bouteille de vin, mais moi, ce que j'entends, c'est les billets de hockey, c'est les soupers au resto, les sorties de golf, les voyages de pêche. Donc, il y a toutes sortes de... Puis, effectivement, il y en a qui seront peut-être plus difficiles à refuser que d'autres. T'sais, si ta passion, c'est d'aller voir le Canadien, quand tu vas avoir tes premiers billets pour aller voir le Canadien... Ça se peut que ça soit plus dur à refuser qu'une bouteille de vin que tu peux t'acheter toi-même.
C'est ça. Puis ce qui peut être dur aussi à refuser à un moment donné, c'est l'amitié que tu as avec la personne qui te l'offre.
Ouais.
Tu sais, c'est difficile, là, tu sais, si...
Ben oui, on aime ça être aimé. Puis
ben
aimé,
ouais,
puis...
parce que là, tu as du fun avec cette personne-là. Là. Puis là, tranquillement, pas vite, il commence à t'offrir des choses. Puis là, tu lui dis non, là, il n'est pas content.
Ouais.
Puis là, tu sais, tu fais « Hey, c'est mon ami. Je suis proche. » Tu sais,
c'est vrai.
T'sais, tu veux... Qui veut vivre tout le temps dans des confrontations?
Ouais, imagine un ami, tu lui offres un cadeau, il dit non. Ben, c'est peut-être parce que c'est pas des amis, justement. Peut-être qu'il faut garder cette distance-là qui est nécessaire. Pour préserver la rigueur, l'intégrité, peut-être que cette amitié-là est pour... Elle se marie peut-être mal.
Oui, puis c'est quelque chose qui est dur à faire, ça. Ouais, c'est dur de ne pas se lier d'amitié avec quelqu'un qui t'appelle à tous les jours.
Ben oui, c'est vrai.
Écoute,
Quelqu'un qui a moins d'hommes d'entre gens, c'est facile.
Ben ouais, c'est ça. Puis il est le fun, à part ça, il est drôle. Puis sais-tu quoi? À soir, là, t'as mangé un bon steak, là, puis c'est parce qu'il t'a amené pas des contrats.
Donc, OK, sensibilisation, éducation. Déjà profité d'un contexte où on explore les zones de gris. Des fois, on essaie de le faire en cours pour se pratiquer, s'imaginer.
Allez-vous
une fois résoudre le problème en respectant justement nos propres valeurs, notre propre intégrité, se voir comme on aimerait se voir dans quelques années.
Ouais.
Aurais-tu des conseils à faire à des... là, les étudiants, pour l'instant, ne sont pas encore en train d'exercer, mais ils sont dans leur formation, sont au bac.
Ouais.
Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour se préparer?
Ben, quelque chose comme déjà varier les milieux de stage.
OK.
Pas aller faire... on peut faire 3 stages avec des crédits, pas les faire les 3 à la même endroit.
Ben non, c'est vrai.
Parce que là... tranquillement, pas vite, on rentre dans un seul et même moule, puis on voit pas tout ce qui peut se passer.
C'est vrai, c'en est un contexte d'éducation, les stages. Donc, si on veut explorer les nuances du milieu, si on va dans un seul milieu, ben ça limite un peu notre connaissance.
Ça serait comme lire juste le même chapitre d'un livre.
Oui, c'est ça, le même chapitre de l'ouvrage de Legault qu'on voit en classe. Mais donc, c'est ça, diversifier ses expériences, profiter des stages qui sont là, sont faits pour ça.
Ouais.
Profiter des premières expériences de travail, même, on pourrait dire. Tu sais, pourtant, le marché est très favorable.
Excessivement favorable, puis tu sais, c'est aussi se renseigner d'où on va.
Avant même d'y aller
parce que je veux dire c'est ce qui fait pourrir une pomme c'est pas en soi juste les pommes à côté, tu sais, c'est la pomme se laisse pourrir par elle-même aussi là.
Okay.
c'est de donner des jambes à la pomme pour dire je vais choisir mon panier déjà pour essayer de pas me retrouver dans des endroits où est-ce que la pourriture est à profusion.
Donc choisir déjà parce que le marché est favorable. Vous avez le choix, vous pouvez choisir où aller faire vos stages, pouvez choisir où vous allez faire vos premières expériences de travail, permettez-vous de changer peut-être, aller voir ailleurs et revenir s'il le faut.
Mais oui.
Donc, allez voir ailleurs, puis si c'est mieux ailleurs, ben tant mieux. Mm. Si c'est pire, ben on reviendra, qu'on sait que c'est mieux où on était.
Oui, puis de toute façon, il y a toujours quelque chose à apprendre à quelque part.
Oui, c'est vrai.
On va revenir avec un bagage, on va revenir peut-être à première idée, on peut dire on va revenir avec des idées différentes qu'on va pouvoir appliquer. Oui, c'est vrai, mais on peut aussi revenir avec le fait de dire sais-tu quoi? Cette technique-là qu'on prend ici, c'est elle la bonne.
Ouais, c'est ça.
C'est elle qui comparée me plaît, entre elles, ouais. Puis qu'elle fonctionne bien. Je vais arrêter de la remettre en doute.
Ouais, c'est ouais. Ça la bonne façon de faire.
Je sais pas, faut pas remettre les choses en doute, mais je vais l'accepter, voir. Puis je vais travailler avec ça, là.
Très intéressant. Sage conseil, Alex. Donc, les étudiants, profitez de vos stages. Faites-en. Faites pas tous vos stages au même endroit. Profitez de cette expérience-là, cette opportunité-là pour explorer. Même chose pour vos premières années de travail. Pourquoi pas en faire deux, trois, là. Explorer mm-hmm. connaître les pratiques
ouais.
Pour éventuellement déterminer votre pratique.
Mm-hmm.
Une pratique qui sera cohérente avec ce que vous êtes, avec vos valeurs. Voilà. Écoute, Alex, ça fait déjà plus d'une heure qu'on discute. On va mettre fin à cette entrevue. Je voulais te remercier pour ta générosité. Écoute, toutes les fois qu'on se croise, tu as toujours plusieurs histoires à me raconter. Encore une fois, ce matin, tu en avais plusieurs nouvelles. Mmh. Donc, ce n'est que partie remise. J'imagine qu'on aura d'autres occasions de se raconter ces histoires. Peut-être pas à ce micro-là, mais j'espère l'avoir avec toi. Merci encore, Alex.
Merci, Jean-François.